la Bibliothèque nationale de France.
Dans le cadre du cycle de lecture à voix haute, la comédienne Judith Chemla lit des extraits d'œuvres de jeunesse de Boris Vian.
Il n'y avait personne sur la plage que des tas de types morts ou des tas de morceaux de types, de tanks et de camions démolis. Il venait des balles d'un peu partout et j'aime pas ce désordre pour le plaisir. Il venait sauter dans l'eau, mais elle était plus profonde qu'elle en avait l'air et j'ai glissé sur une boîte de conserve. Le gars qui était juste derrière moi a eu les trois quarts de la figure emportée par le pruneau qui arrivait et j'ai gardé la boîte de conserve en souvenir. J'ai mis les morceaux de sa figure dans mon casque et je les lui ai donnés. Il est reparti se faire soigner, mais il a l'air d'avoir pris le mauvais chemin parce qu'il est entré dans l'eau jusqu'à ce qu'il ait plus pied. Et je crois pas qu'il y voit suffisamment au fond pour ne pas se perdre. J'ai couru ensuite dans le bon sens et je suis arrivée juste pour recevoir une jambe en pleine figure. J'ai essayé d'engueuler le type, mais la mine n'en avait laissé que des morceaux pas pratiques à manœuvrer, alors j'ai ignoré son geste et j'ai continué. 10 mètres plus loin, j'ai rejoint 3 autres gars qui étaient derrière un bloc de béton et qui tiraient sur un coin du mur plus haut. Ils étaient en sueur et trempés d'eau. Et je devais être comme eux, alors je me suis agenouillée et j'ai tiré aussi. Le lieutenant est revenu. Il tenait sa tête à 2 mains et ça coulait rouge de sa bouche ouverte. Et il avait pas l'air content et il a vite été s'étendre sur le sable, les bras en avant. Il a dû salir le sable pas mal. C'était un des seuls coins qui restait propre. De là, notre bateau échoué avait l'air d'abord complètement idiot. Et puis, il n'a plus même eu l'air d'un bateau quand les 2 obus sont tombés dessus. Ça m'a pas plu parce qu'il restait encore 2 amis dedans, avec les balles reçues en se levant pour sauter. J'ai tapé sur l'épaule des 3 qui tiraient avec moi et je leur ai dit « Venez, allons-y ». Bien entendu, je les ai fait passer d'abord et j'ai eu le nez creux parce que le premier et le second étaient descendus par les 2 autres qui nous canardaient. Il en restait seulement un devant moi, le pauvre vieux. Il a pas eu de veine, plutôt qu'il a été débarrassé du plus mauvais. L'autre a juste eu le temps de le tuer avant que je m'occupe de lui. Ces 2 salauds derrière le coin du mur, ils avaient une mitrailleuse et des tas de cartouches. Je l'ai orienté dans l'autre sens et j'ai appuyé, mais j'ai vite arrêté parce que ça me cassait les oreilles et aussi, elles venaient de s'enrayer. Elles doivent être réglées pour ne pas tirer dans le mauvais sens. Là, j'étais à peu près tranquille. Du haut de la plage, on pouvait profiter de la vue. Sur la mer, ça fumait dans tous les coins et l'eau jaillissait très haut. On voyait aussi les éclairs des salves des gros cuirassés et leurs obus passaient au-dessus de la tête avec un drôle de bruit sourd comme un cylindre de son grave foré dans l'air. Le capitaine est arrivé. On restait juste 11. Il a dit que c'était pas beaucoup, mais qu'on se débrouillerait comme ça. Plus tard, on a été complétés. Pour l'instant, il nous a fait creuser des trous pour dormir, je pensais, mais non. Il a fallu qu'on s'y mette et qu'on continue à tirer. Heureusement, ça s'éclaircissait. Il en débarquait maintenant de grosses fournées des bateaux, mais les poissons leur filaient entre les jambes pour se venger du remue-ménage et la plupart tombaient dans l'eau et se relevaient en râlant comme des perdus. Certains ne se relevaient pas et partaient en flottant avec les vagues. Et le capitaine nous a dit aussitôt de neutraliser le nid de mitrailleuse qui venait de recommencer à taper en progressant derrière le tank. On s'est mis derrière le tank. Moi, le dernier, parce que je me fie pas beaucoup aux freins de ces engins-là. C'est plus commode de marcher derrière un tank tout de même, parce qu'on n'a plus besoin de s'empêtrer dans les barbelés, les piquets tombent tout seuls, mais j'aimais pas sa façon d'écrabouiller les cadavres avec une sorte de bruit qu'on a du mal à se rappeler. Enfin, sur le moment, c'est assez caractéristique. Au bout de 3 minutes, on a sauté. Le tank a sauté sur une mine. Et il s'est mis à brûler. 2 des types n'ont pas pu sortir et le 3e a pu, mais il restait un de ses pieds dans le tank. Et je sais pas s'il s'en est aperçu avant de mourir. Enfin, 2 de ses obus étaient déjà tombés sur le nid de mitrailleuse en cassant les œufs et aussi les bons hommes. Ceux qui débarquaient ont trouvé une amélioration, mais alors une batterie anti-char s'est mise à cracher à son tour et il en est tombé au moins 20 dans l'eau. Moi, je me suis mis à plat ventre. De ma place, je les voyais tirer en me penchant un peu. La carcasse du tank qui flambait me protégeait un peu et j'ai visé soigneusement. Le pointeur est tombé en se tortillant très fort. J'avais dû taper un peu trop bas, mais j'ai pas pu l'achever. Il fallait d'abord que je descende les trois autres. J'ai eu du mal. Heureusement, le bruit du tank qui flambait m'a empêché de les entendre beugler. J'avais mal tué le troisième aussi. Du reste, ça continuait à sauter et à fumer de tous les côtés. J'ai frotté mes yeux un bon coup pour y voir mieux parce que la sueur m'empêchait de voir et le capitaine est revenu. Il ne se servait pas que de son bras gauche. Et il m'a demandé « Pouvez-vous me bander le bras droit très serré autour du corps ?» J'ai dit oui et j'ai commencé à l'entortiller avec des pansements. Et puis il a quitté le sol des deux pieds à la fois et il m'est tombé dessus parce qu'il est arrivé une grenade derrière. Il s'est raidi instantanément. Il paraît que ça arrive quand on meurt très fatigué. En tout cas, c'était plus commode pour l'enlever de sur moi. Et puis j'ai dû m'endormir. Et quand je me suis réveillée, le bruit venait de plus loin et un de ces types avec des croix rouges tout autour du casque me versait du café. Après, on est parti vers l'intérieur et on a essayé de mettre en pratique les conseils des instructeurs et les choses qu'on a apprises aux manœuvres. La Jeep de Mike est revenue tout à l'heure. C'est Fred qui conduisait et Mike était en deux morceaux. Avec Mike, ils avaient rencontré un fil de fer. On est en train d'équiper les autres bagnoles avec une lame d'acier à l'avant parce qu'il fait trop chaud pour qu'on roule avec des pare-brises relevés. Ça crache encore dans tous les coins et on fait patrouille sur patrouille. Je crois qu'on a avancé un peu trop vite et on a du mal à garder le contact avec le ravitaillement. Ils nous ont bousillé au moins 9 chars ce matin et il est arrivé une drôle d'histoire. Le bazooka d'un type est parti avec la fusée et lui restait accroché derrière par la bretelle. Il a attendu d'être à 40 mètres et il est descendu en parachute. Je crois qu'on va être obligé de demander du renfort parce que je viens d'entendre comme un grand bruit de sécateur. Ils ont dû nous couper nos arrières. Ça me rappelle il y a 6 mois, quand ils venaient nous couper nos arrières. Nous devons être actuellement complètement encerclés, mais c'est plus l'été. Heureusement, il nous reste de quoi manger et il y a des munitions. Il faut qu'on se relaye toutes les 2 heures pour monter la garde, ça devient fatigant. Les autres prennent les uniformes des types de chez nous qui font prisonniers et se mettent à s'habiller comme nous, on doit se méfier. Avec tout ça, on n'a plus de lumière électrique et on reçoit des obus sur la figure des 4 côtés à la fois. Pour le moment, on tâche de reprendre le contact avec l'arrière. Il faut qu'on nous envoie des avions. Nous commençons à manquer de cigarettes. Il y a du bruit dehors, il doit se préparer quelque chose. On n'a même plus le temps de retirer son casque. Il se préparait bien quelque chose. 4 chars sont arrivés presque jusqu'ici. J'ai vu le premier en sortant. Il s'est arrêté aussitôt. Une grenade avait démoli une de ses chenilles et elle s'est déroulée d'un coup avec un épouvantable bruit de ferraille. Mais le canon du char ne s'est pas enrayé pour si peu. On a pris un lance-flammes. Ce qui est embêtant avec ce système-là, c'est qu'il faut fendre la coupole du char avant de se servir du lance-flammes. Sans ça, il éclate, comme les châtaignes. Et les types à l'intérieur sont mal cuits. À 3, on a été fendre la coupole avec une scie à métaux, mais 2 autres chars arrivaient. Il a bien fallu le faire sauter sans le fendre. Le second a sauté aussi et le troisième a fait demi-tour, mais c'était une feinte parce qu'il est arrivé en marche arrière. Aussi, ça nous étonnait un peu de le voir tirer sur les types qui le suivaient. Comme cadeau d'anniversaire, il nous a envoyé 12 obus de 88. Il faudra reconstruire la maison si on veut s'en resservir, mais cela ira plus vite d'en prendre une autre. On a fini par se débarrasser de ce troisième char en chargeant un bazooka avec de la poudre à éternuer. Et ceux à l'intérieur se sont tellement cognés le crâne sur le blindage qu'on a sorti que des cadavres. Le seul conducteur vivait encore un peu, mais il s'est pris la tête dans le volant sans pouvoir la retirer. Alors plutôt que d'abîmer le char qui n'avait rien, on a coupé la tête du type. Derrière le char, des motocyclistes avec des fusils mitrailleurs se sont amenés en faisant un foin du diable. On a réussi à en venir à bout grâce à une vieille moissonneuse lieuse. Pendant ce temps-là, il nous arrivait aussi sur la tête quelques bombes et même un avion que notre DCA venait d'abattre sans le faire exprès parce qu'en principe, elle tirait sur les chars. Nous avons perdu dans la compagnie Simon, Morton, Buck, PC Et il nous reste les autres et un bras de Slim. Toujours encerclé. Il pleut maintenant sans arrêt depuis 2 jours. Le toit n'a plus qu'une tuile sur 2, mais les gouttes tombent juste où il faut. Et nous ne sommes pas vraiment mouillés. Nous ne savons absolument pas combien de temps ça va encore durer. Toujours des patrouilles. C'est assez difficile de regarder dans un périscope sans entraînement et c'est fatigant de rester avec de la boue par-dessus la tête plus d'un quart d'heure. Nous avons rencontré hier une autre patrouille. Nous ne savions pas si c'était les nôtres ou ceux d'en face, mais sous la boue, on risquait rien à tirer parce qu'il est impossible de se faire mal. Les fusils explosent tout de suite. On a tout essayé pour se débarrasser de cette boue. On a versé l'essence dessus. En brûlant, ça fait sécher, mais après, on se cuit les pieds en passant dessus. La vraie solution consiste à creuser jusqu'à la terre ferme. C'est encore plus difficile de faire des patrouilles dans de la terre ferme que dans de la boue. On finirait par s'en accommoder tant bien que mal. L'ennuyeux est qu'il en est venu tant qu'elle se met à avoir des marées. Actuellement, ça va. Elle est à la barrière. Malheureusement, tout à l'heure, elle remontera de nouveau au premier étage et ça, c'est désagréable. Il m'est arrivé ce matin une sale aventure. J'étais sous le hangar, derrière la baraque, en train de préparer une bonne plaisanterie aux deux types qu'on voit très bien à la jumelle en train d'essayer de nous repérer. J'avais un petit mortier de 81 et je l'arrangeais dans une voiture d'enfant. Et Johnny devait se camoufler en paysanne pour la pousser, mais d'abord le mortier m'est tombé sur le pied. Bon, ça, c'est rien d'autre que ce qui m'arrive tout le temps en ce moment. Et ensuite, le coup est parti pendant que je m'étalais en tenant mon pied. Il est allé éclater un de ces machins à ailettes au deuxième étage, juste dans le piano du capitaine qui était en train de jouer Jada. Ça a fait un bruit d'enfer. Le piano est démoli. Mais le plus embêtant, le capitaine n'avait rien, en tout cas rien de suffisant pour l'empêcher de taper dur. Heureusement, tout de suite après, il est arrivé un 88 dans la même chambre. Il a pas pensé qu'il s'était repéré sur la fumée du premier coup et il m'a remercié en disant que j'avais sauvé la vie en le faisant descendre. Pour moi, ça avait plus aucun intérêt à cause de mes 2 dents cassées et aussi parce que toutes ces bouteilles étaient juste sous le piano. On est de plus en plus encerclés, ça nous dégringole dessus sans arrêt. Heureusement, le temps commence à se dégager. Il pleut guère que 9 heures sur 12. D'ici un mois, on peut compter sur du renfort par avion. Il nous reste 3 jours de vivre. Les avions commencent à nous lancer des machins par parachute. Et j'ai eu une déception. En ouvrant le premier, il y avait dedans une flopée de médicaments. Je les ai échangés au docteur contre 2 barres de chocolat aux noisettes. Du bon, pas cette saloperie de ration, là. Et un demi-flasque de cognac. Mais il s'est rattrapé en m'arrangeant mon pied écrabouillé. J'ai dû lui rendre le cognac. Sans ça, j'aurais plus de pied à l'heure qu'il est. Ça se met de nouveau à ronfler là-haut. Il y a une petite éclaircie. Il nous envoie encore des parachutes. Mais cette fois, ce sont des types, on dirait. C'était bien des types. Il y en avait 2 rigolos. Il paraît qu'ils ont passé tout le trajet à se faire des prises de judo, à se flanquer des marrons, à rouler sous les sièges. Ils ont sauté en même temps et ils ont joué à se couper au couteau les cordes de leur parachute. Malheureusement, le vent les a séparés. Alors, ils ont été obligés de continuer à coups de fusil. J'ai rarement vu d'aussi bons tireurs. Là, tout de suite, on est en train de les enterrer parce que ils sont tombés d'un peu haut. On est désencerclés. Nos chars sont revenus et les autres n'ont pas tenu le coup. J'ai pas pu me battre sérieusement à cause de mon pied, mais j'ai encouragé les copains. C'était très excitant. De la fenêtre, je voyais bien et les parachutistes arrivés hier se démenaient comme des diables. J'ai maintenant un foulard en soie de parachute jaune et vert sur marron. Ça va bien avec la couleur de ma barbe, mais demain, je vais me raser pour la permission de convalescence. J'étais tellement excitée que j'ai balancé une brique sur la tête de Johnny qui venait d'en rater un. Et actuellement, j'ai 2 nouvelles dents en moins. Cette guerre ne vaut rien pour les dents. L'habitude émousse les impressions. J'ai dit ça à Huguette, elles ont de ses noms, en dansant avec elle au centre de la Croix-Rouge. Et elle a répliqué « Vous êtes un héros ». Mais j'ai pas eu le temps de trouver une réponse fine parce que Mac m'a tapé sur l'épaule, alors j'ai dû la lui laisser. Les autres parlaient mal et cet orchestre jouait beaucoup trop vite. Mon pied me tracasse encore un peu, mais dans 15 jours, c'est fini. On repart. Je me suis rabattue sur une fille de chez nous, mais le drap d'uniforme, c'est trop épais. Ça émousse aussi les impressions. Il y a beaucoup de filles ici. Elles comprennent tout de même ce qu'on leur dit et ça me fait rougir, mais il n'y a pas grand-chose à faire avec elles. Je suis sortie. J'en ai trouvé tout de suite beaucoup d'autres, mais pas le même genre, plus compréhensive. Mais c'est 500 francs minimum, encore parce que je suis blessée. C'est drôle, celles-là, elles ont l'accent allemand. Après, j'ai perdu Mac et j'ai bu beaucoup de cognac. Ce matin, j'ai horriblement mal à la tête à l'endroit où les MP ont tapé. J'ai plus d'argent parce qu'à la fin, j'ai acheté des cigarettes françaises à un officier anglais. Je les ai senties passer. Je viens de les jeter. C'est une chose dégoûtante. Il a eu raison de s'en débarrasser. Quand vous sortez des magasins de la Croix-Rouge avec un carton pour mettre les cigarettes, le savon, les sucreries et les journaux, ils vous suivent des yeux dans la rue. Et je comprends pas pourquoi. Car ils vendent sûrement leur cognac assez cher pour pouvoir s'en acheter aussi et leurs femmes ne sont pas données non plus. Mon pied est presque tout à fait guéri. Je crois pas rester plus. Encore pas si longtemps que ça ici. J'ai vendu les cigarettes pour pouvoir sortir un peu et ensuite j'ai tapé Mac, mais il les lâche pas facilement. Je commence à m'embêter. Je vais ce soir au cinéma avec Jacqueline. J'ai rencontré celle-là hier soir au club, mais je crois qu'elle est pas intelligente parce qu'elle enlève ma main toutes les fois et elle bouge pas du tout en dansant. Ces soldats d'ici m'horripilent, ils sont tous débraillés, il n'y en a pas deux qui portent le même uniforme. Enfin, il n'y a rien à faire qu'à attendre ce soir. De nouveau là. Tout de même, on s'embêtait encore moins à la ville. On avance très lentement. Chaque fois qu'on a fini la préparation d'artillerie, on envoie une autre patrouille. Et chaque fois, un des types de la patrouille revient amoché par un tireur isolé. Alors on recommence la préparation d'artillerie, on envoie les avions... Ils démolissent tout et deux minutes après, les tireurs isolés recommencent à tirer. En ce moment, les avions reviennent. J'en compte 72. Ce sont pas de très gros avions, mais le village est petit. D'ici, on voit les bombes tomber en spirale et ça fait un bruit un peu étouffé avec de belles colonnes de poussière. On va repartir à l'attaque. Il faut d'abord envoyer une patrouille. Bien ma veine, j'en suis. Il y a à peu près 1,5 km à faire à pied. J'aime pas marcher si longtemps, mais dans cette guerre, on nous demande jamais de choisir. Nous nous tassons derrière les gravats des premières maisons et je crois que d'un bout à l'autre du village, il n'en reste pas une seule debout. Il n'a pas l'air de rester beaucoup d'habitants non plus et ceux que nous voyons font une drôle de tête quand ils l'ont conservé. Mais ils devraient comprendre que nous ne pouvons pas risquer de perdre des hommes pour les sauver avec leur maison. Les trois quarts du temps, ce sont de très vieilles maisons, sans intérêt. C'est aussi le seul moyen pour eux de se débarrasser des autres. Ça, d'ailleurs, ils le comprennent en général, quoique certains pensent que c'est pas le seul moyen. Bah, après tout, ça les regarde. Ils tenaient peut-être à leur maison, mais sûrement moins dans l'état où elles sont maintenant. Je continue ma patrouille. Je suis encore le dernier, c'est plus prudent. Et le premier vient de tomber dans un trou de bombe plein d'eau. Il en sort avec des sangsues plein son casque. Il a aussi ramené un gros poisson tout ahuri. En rentrant, Mac lui a appris à faire le beau et il aime pas le chewing-gum. Je viens de recevoir une lettre de Jacqueline. Elle a dû la confier à un autre type pour la mettre à la poste car elle était dans une de nos enveloppes. Vraiment, c'est une fille bizarre. Mais probablement que toutes les filles ont des idées pas ordinaires. Nous avons reculé un peu depuis hier, mais demain, nous avançons de nouveau. Toujours les mêmes villages complètement démolis, ça vous donne le cafard. On a trouvé une radio toute neuve, ils sont en train de l'essayer. Je ne sais pas si réellement on peut remplacer une lampe par un morceau de bougie. Bon, je pense que oui. J'entends jouer Chattanooga. Je l'ai dansé avec Jacqueline un peu avant de partir de là-bas. Je pense que je vais lui répondre si j'ai encore du temps. Maintenant, c'est Spike Jones. J'aime aussi cette musique-là et je voudrais bien que tout soit fini pour aller m'acheter une cravate civile avec des raies bleues et jaunes. On repart tout à l'heure. De nouveau, nous sommes tout près du front et des obus se remettent à arriver. Il pleut, il fait pas très froid et la Jeep marche bien. Nous allons descendre pour continuer à pied. Il paraît que ça commence à sentir la faim. Je sais pas à quoi il voit ça. mais je voudrais tâcher de m'en sortir le plus commodément possible. Il y a encore des coins où on se fait accrocher dur. On peut pas prévoir comment ça va être. Dans 15 jours, j'aurai une nouvelle permission et j'ai écrit à Jacqueline de m'attendre. J'ai peut-être eu tort de le faire. Faut pas se laisser prendre. Je suis toujours debout sur la mine. Nous étions partis ce matin en patrouille et je marchais le dernier comme d'habitude. Ils sont tous passés à côté, mais j'ai senti le déclic sous mon pied et je me suis arrêtée net. Elles éclatent que quand on retire son pied. J'ai lancé aux autres ce que j'avais dans mes poches et je leur ai dit de s'en aller. Je suis tout seul. Je devrais attendre qu'ils reviennent, mais je leur ai dit de pas revenir. Et je pourrais essayer de me jeter à plat ventre, mais j'aurais horreur de vivre sans jambes. J'ai gardé que mon carnet et le crayon. Je vais les lancer avant de changer de jambe. Il faut absolument que je le fasse parce que j'en ai assez de la guerre. Et parce que il me vient des fourmis. Ce texte s'appelait Les fourmis. La vie, c'est comme une dent. D'abord, on n'y a pas pensé. On s'est contenté de mâcher. Et puis, ça se gâte soudain. Ça vous fait mal. Et on y tient. Et on la soigne. Et pour qu'on soit vraiment guéri, il faut vous l'arracher, la vie. Balade des marchés obscurs. Les sangs sonnaient. À vous, messieurs les profiteurs de guerre, les mercantistes, les vilains trafiquants, les fabricants de gâteaux à la terre, voleurs, pillards, tous ces fronts et croquants, j'aimerais voir au col de lourds carcans. Craignez qu'un jour le peuple vous punisse. Allez, feignez des regrets convaincances et prions Dieu que la guerre finisse. Priez Satan que dure 105 ans. Grâce truande au trélaï de manière qui remplacée par des bijoux clinquants, le bel esprit des dames de naguère, vous connaîtrez des piques les piquants. Recouvrez-les ces corps lourds et choquants de laine fine et de douce pelisse. Imprégnez-les de parfums suffocants. Mais prions Dieu que la guerre finisse. Priez Satan que dure 105 ans. Mourez de faim, nos enfants et nos mères. Roulez sur l'or. Tavernier fabricants de torboyaux à Saint-Louis le Vert, tombez, blessés, infirmes claudicants, tombez toujours, nul emploi n'est vacant pour l'innocent que dégouste le vice. Et vous, volez, volez en vous moquant, mais prions Dieu que la guerre finisse, priez Satan. Que dure 105 ans. Envoie. Prince, vous êtes riche en escroquant, mais j'attendrai longtemps l'heure propice pour vous crever ce ventre provoquant. Donc, prions Dieu que la guerre finisse. Priez Satan que dure 105 ans. Balade des amours passés. Amour légère, jeu charmant, tendres propos, douces promesses. Où êtes-vous, ô mon amant? Et vos baisers et vos caresses, grands sont devenus ma tristesse et mon chagrin depuis des mois, jour lumineux de sa tendresse, vous êtes allés loin de moi. En mon très âpre dénuement, je pleure et lamente sans cesse, mais ce m'est un amer tourment de pleurer seule ma faiblesse. Ami si cher, point ne me laisse, car tant cruel est mon émoi, bonheur, jeu, ris et liesse, vous êtes allés loin de moi. Ainsi va-t-il des beaux serments. D'un coup, de son aile traîtresse, malheur navre les cœurs aimants. Il a consommé ma détresse. Aussi la santé me délaisse, monte ensemble d'un si à moi, beauté, corps souple et gentillesse. Vous êtes allé loin de moi. Envoie, prince, ouvre-lui ta forteresse, libre fais-le comme chamois, car demain je dirai jeunesse. Vous êtes allé loin de moi. Ballade de l'an 40. Or, dansions sur la corde raide, François, mes joyeux compagnons, dans le duvet d'une vie tiède, endormis comme bons couillons. Sur la rue, nous avions pignon sur les genoux, fille odorante. L'or rongeant un maigre quignon, souvenons-nous de l'an 40. Prime nos lames de Tolède, tout pour nos sénéchaux mignons ira comme sur des roulèdes, s'il faut en croire l'opinion de sainte Odile. Ah, mon lorgnon, notre victoire fulgurante, où es-tu, vouée au trognon? Souvenons-nous de l'an 40. Notre élan nous menoit en Suède, mais devant nous, le fanillon du général qui nous précède penche plutôt vers Avignon. En une rare communion de pensées, notre masse errante fuit chargée sur des camions. Souvenons-nous de l'an 40. Envoye. Prince, nous sommes par Guignon, tombée sur un hoste, et mourante, la France agite ses moignons. Souvenons-nous de l'an 40. Ballade de notre guerre, ou au cercueil, les potes. Ça dure un bout de temps déjà, mais c'est raté, tout à refaire. Certains pour qui rien ne changea, qui n'ont jamais voulu s'en faire, et baffrent comme père et mère, vont trouver ça décourageant, mais on pourra pas s'y soustraire. La guerre, c'est fait pour tuer les gens. On ne trouve plus de roja. Mais on n'est pas sous la terre. Il sierait que ça s'arrangea. Allons les gars, on est tous frères. Laissez vos fringues, vos mouquères. Si l'appétit vient en mangeant, la mort vient en faisant la guerre. La guerre, c'est fait pour tuer les gens. Déjà Satan nous corrigea. Mais tout bénin, mollo, pépère. On peut dire qu'il nous arrangea. On s'est tout juste un peu fait traire, dirait la baronne. Pas comme une vache, au contraire. Elle, on lui prend pas son argent. Malgré qu'on râle, faut se distraire. La guerre, c'est fait pour tuer les gens. Envoie. Prince, à force d'entendre braire, je trouve, ça devient rageant. Où sont nos charniers de naguère? La guerre, c'est fait pour tuer les gens. S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un amour, s'il pleuvait des larmes lorsque les cœurs sont lourds sur la terre entière pendant 40 jours, des larmes amères engloutiraient les tours. S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un enfant, s'il pleuvait des larmes pour rire des méchants sur la terre entière en flots gris et glacés, des larmes amères roulerait le passé. S'il pleuvait des larmes quand on tue les cœurs purs, s'il pleuvait des larmes quand on crève sous les murs, sur la terre entière il y aurait le déluge, des larmes amères, des coupables et des juges. S'il pleuvait des larmes chaque fois que la mort, brandissant ses armes, fait sauter les décors, sur la terre entière il n'y aurait plus rien que les larmes amères des deuils et du destin. Lettre de Boris Vian à sa mère. 1939. 39 bis, boulevard Alsace-Lorraine, mardi 7 novembre, 10h35, soir. Chère maman, j'achetais aujourd'hui le présent papier à lettres, de luxe, 9,50 le bloc. La vie n'a pas l'air très bon marché ici. Enfin, 7,50 pour 7,50, on bouffe bien, j'en laisse alors. Le seul ennui est le petit déjeuner. Il n'y a Alors je vais me merder avec un bistrot quelconque. Aujourd'hui, on a eu le premier cours d'analyse mathématique et la première conférence de machine. Ça gaze à peu près, mais ça trace dur. Demain, je commence la cure d'agocholine, histoire de remplir les gogues. J'ai bouffé à midi du jambon, du saumon, du bœuf, au faillot et des gâteaux secs. Ce soir, du bouillon vermicellé, de la salade de pommes de terre, du veau aux carottes et des pommes. Ce matin, j'ai resquillé 2 portions de jambon, saumon et bœuf. Ça allait très bien. On s'est fait engueuler après, mais pas moi. Le matin, on a cours de 8h15 à 9h45, puis une demi-heure de liberté, puis cours de 10h15 à 11h45. Le soir, dessin, PMS, la préparation militaire supérieure. Lundi, mardi, ou machine. J'ai pas encore été parlé de la PMS. Faut que je voie Léon lui-même, c'est plus swing. Je suis très bien placée à l'amphi, on choisit pas sa place. Je suis, grâce à un petit trucage, à côté de Zizi, au premier rang, place 6. C'est aux pommes. Pitou est au banc 7, place 77. J'ai déjà traversé la rue de Beaulieu, pas encore vu la cousine. J'ai vu les remparts, c'est très joli. C'était en allant en groupe poser une couronne de fleurs sur le monument aux morts. Je stoppe parce que j'ai sommeil, je viens d'avoir la migraine et la calémine en a à peu près triomphé, mais c'est pas parfait. Enfin, pour le moment, j'ai le temps de t'écrire, c'est pour ça que t'en recevras pas mal au début. Quand je t'écrirai le soir, je peux poster le lendemain. La poste est sur mon chemin vers l'école. Je t'embrasse, bisous. Baise les autres pour mes zigs et dis-leur qu'ils auront du caca s'ils sont sages. Novembre 1939, lundi soir. Ma vieille mère Pouche. Je sais pas trop quoi te raconter, si c'est qu'on s'emmerde bien le dimanche à Angoulême. C'est positivement insensé. À part ça, rien de nouveau. Je bouffe toujours des pommes, sans résultat. Je me ruine en boostify diverses et ça va pas trop mal. Ma barbe est toujours blanche et belle et je sais faire demi-tour droite. Je donnerais bien 2 ronds pour être à Ville-d'Avray et mon linge est remarquablement blanchi pour pas trop cher. J'en ai eu cette semaine pour 7,75. On a recommencé à écrire 30 pages à l'heure avec le gars Chazy qui est très fort mais bien rapide. Voici un facsimilé à peu près exact du dessin qui figure sur la blouse à Zizi. C'est un très joli chat, comme tu vois, environ 50 mètres de haut. Je voudrais bien savoir si les 2 premiers cakes m'arriveront un jour ou si ce sont eux que j'ai reçus samedi. Y avait-il dedans une poire, une pomme ? Continue à t'appliquer. Ta dernière lettre était lisible. T'auras une bonne note si tu fais des progrès. Madame Zizi vient ici samedi prochain. Elle viendra te voir avant, je crois. Donne-lui 20 kilos de confiture, ma raquette de ping-pong et un réveil que tu te seras procuré suivant mes indications modestes. Besoin s'en fait sentir. Ce soir, on a mis en portefeuille le lit de Pitou pendant qu'il n'était pas là. Je suis en train de l'entendre gueuler d'ici. C'est assez amusant. Baise-les tous de ma part. Papa est vraiment un fort poète. Bison. NB. Mes lettres ne sont pas faites pour être lues en public. Boris à Pouche, janvier 1940, lundi soir. Dis-moi, si t'es d'accord sur le contenu, j'en tiendrai aucun compte, mais tout de même. « Ma chère mère, comment vas-tu? Moi bien, tant mieux. Que je te dise une chose, ne te mets pas dans tous tes états, on passe d'office le conseil de révision ici demain matin. Je l'ai appris aujourd'hui. Mais je ne demande pas mieux que de te rendre une petite visite vers le samedi 19 janvier. Moi, tu comprends, je m'en fous éperdument. D'ailleurs, rassure-toi, je présenterai mon certificat. Seulement, je t'avoue que si je peux trouver une bonne petite planque comme la DCA ou la DAT ou l'ALVF, artillerie lourde sur voie ferrée, ou à la rigueur l'auxiliaire, je ferai de préférence à l'ajournement. Ceci sans que j'aie nullement l'intention de te brimer. J'avoue également que j'aime mieux ça pour d'autres raisons qui ont un certain rapport avec ma situation au point de vue de Vaucresson. J'espère que je me fais comprendre. Alors rassure-toi, je viendrai te voir de toute façon, mais je te demande de me laisser un peu voir venir du côté militaire. T'auras toujours le temps et le loisir de me faire réformer après. Et d'ici que je sois incorporée, comme de toute façon je ne le serai pas avant septembre, tu peux roupiller en paix. Ce soir, Mère Truff m'a offert un beefsteak car je suis un garçon charmant. Ça, c'est de moi. Hein? À l'œil, bien entendu. Et c'est lundi. À part ça, prépare-moi un sacré colis pour le 19 mai, légumes en conserve et langues et gâteaux et fruits et confitures. Ton fils respectueux, c'est pas vrai. TSVP. J'ajoute une page, parce que ça m'embête, vu que ça t'embête que je fasse le poil ici. Seulement, il y a un examen le 18, je t'ai déjà dit, et ça m'embête aussi encore plus de le louper pour le repasser avec un autre un mois après. Alors, ne te fais pas de bile, surtout, ou je me jette dans la Charente du haut de l'hôtel de ville qui en est à 1 kilomètre, au moins. Bon, j'ai nullement l'intention de faire l'idiot, dis-le aussi à ce crétin de Valérie, Romère. Et puis sache que Monette a 39,5 et que je suis très inquiet pour ma femme, tu vois. Tout de même, que je pense à toi d'abord, c'est pour te remettre de bonne humeur, mais tu dois être en colère contre moi et on ne sait pas pourquoi. Seulement songe que je vais piloter des camions modèle 1914 pendant au moins 10 minutes par semaine tous les lundis et que même si j'étais ajournée, je ferais la PMS. Et puis assez sur ce sujet, j'y peux rien, toi non plus, t'occupes pas de ça, t'es trop petite, t'en as 4 pages d'emmerdement. Tout le monde va bien? Chic, à Suzy, chic à Suki, vive-moi, baise mon prince pour moi, je ne fous rien, la forme se maintient, j'ai un exam gêné dans 3 jours, j'en sais pas un pet. Mes notes, dessin 10, 13, 14, 14,5, 15,5, je crois. Maths, 12 et 16. C'est là, je suis sûre. Je t'embrasse. Bison. 1940. Dimanche 14 janvier. Ma chère maman, tu es une misérable de te réjouir comme ça de me voir ajournée. Pour te punir, je me suis engagée à la Légion étrangère. À la Légion étrangère, mais on m'a nommée colonel tout de suite, alors j'ai donné ma démission. En fait, je râle comme un veau. Je t'ai écrit que je comptais venir le 26 ou le 27 parce que tu m'attendais le 18. Je ne voulais pas que tu fusses trop déceptée. Alors, si tu n'y tiens pas, n'est-ce pas? Mais comme je ne me fie pas à la fille d'en cause, il vaudrait peut-être mieux que je vienne 2 fois, en effet. Je tâcherai de me démerder, pourquoi ne pas écrire franchement démerder. Alors, je vais en parler à ma fille d'en cause et je lui demanderai ce qu'elle en pense. Autre note mécanique, 12,5. Physique, 14. Mais ne perds pas de vue que la moyenne est 14,5 et 13,5 pour passer en deuxième année. 14,5, c'est pour avoir le diplôme d'ingénieur. Sur ce, je te salue bien bas et je passe autour de ton acolyte, Monette. Ton fils affectionné, Bison. Fin juin 1940, vendredi, 00h05. Ma vieille pouche. J'ai rien de neuf à te dire, mais je t'écris quand même pour ne pas que tu aies des jours creux dans ton courrier. Je suis prêt à recevoir l'accordéon de Bubu. Ici, toujours une chaleur infernale, on se barbe à la boîte et on ne sait pas grand-chose de ce qui se passe. On attend le 6 juillet, on fait son boulot, il n'y a plus personne, c'est navrant. Et puis le fric s'en va tout seul. Enfin, ça finira par se tasser. Pourtant, après le 6 juillet, qu'est-ce que je ferai? Laissera-t-on les mâles ici ou... C'est pas grave, mais ça me tracasse. Éclaire-moi. Je vais éteindre, il est tard. Je te bise. bison. Soyez sages et allez dans les abris. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis née, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer. Merci. Merci. Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.